VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 14 octobre 2016. En direct de Washington, Jean-Roger Billon et Anne Alberson pour commencer les titres.
Au Nigeria, 21 lycéennes de Chibok ont été libérées par Boko Haram.
Au Mali, 4 soldats gouvernementaux ont trouvé la mort dans le centre du pays.
En République centrafricaine, 30 morts et 57 blessés, c'est le bilan provisoire des violences de mercredi à Kagabandoro, dans le centre du pays.
En Syrie, la Russie se dit prête à assurer aux rebelles un retrait en toute sécurité d'Alep, une ville qu'elle bombarde sans relâche.
Présidentielle américaine, Michelle Obama a reproché hier à Donald Trump ses propos intolérables sur les femmes.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Nigeria, 21 lycéennes de Chibok, enlevées par Boko Haram il y a plus de 2 ans, ont été libérées par leur ravisseur. Leur identité devrait être dévoilée après confirmation par leur famille. La présidence nigériane a affirmé dans un communiqué que cette libération avait eu lieu après des négociations facilitées par le Comité international de la Croix-Rouge et le gouvernement suisse.
Les autorités espèrent que cette nouvelle étape va aider à retrouver les 197 autres jeunes filles toujours entre les mains de Boko Haram. Depuis avril 2014, les lycéennes ont été échangées contre 4 combattants de Boko Haram dans la ville de Banki, à la frontière du Cameroun, selon des sources locales. Mais le ministre de l'Information a été catégorique, ce n'était pas un échange.
En tout état de cause, les chefs d'état-major des armées des pays du lac Tchad, Nigeria, Tchad, Niger, Cameroun et Bénin, se sont réunis jeudi à Niamey pour préparer l'assaut final contre Boko Haram. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la radio d'état nigérienne, citant Assoumi Massoudou, le ministre nigérien de la Défense, à l'ouverture de la réunion. Le Niger, le Tchad et le Nigeria ont lancé quasi simultanément en juillet des opérations de ratissage contre les fiefs de Boko Haram, selon l'armée du Niger.
4 soldats maliens ont trouvé la mort quand leur véhicule a sauté sur des mines entre les localités de Diabali et de Nampala dans le centre du pays. Nanit Talani.
L'attaque s'était produite dans le village de Ngomakura. 2 véhicules de l'armée ont été détruits par l'explosion de 3 mines et plusieurs soldats ont été blessés. Le 5 octobre, 2 soldats maliens avaient été tués et 2 autres grièvement blessés près de Tombouctou par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés en 2013 par une intervention militaire française et internationale. Longtemps concentrés dans le nord, les attaques djihadistes se sont étendues à partir de 2015 vers le centre puis le sud du pays. Des zones entières du Mali échappent encore au contrôle de Bamako, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix dont l'application ne cesse d'accumuler des retards.
Et cette situation sécuritaire dans le nord du Mali affecte entre autres la rentrée scolaire dans la région, particulièrement à Kidal. Le gouvernement et la CMA œuvrent de concert pour qu'elle ait lieu le 15 octobre 2016, la date retenue d'un commun accord, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
Pour la rentrée scolaire à Kidal, 17 enseignants sont déjà sur place. 30 autres enseignants volontaires sont prêts à les rejoindre. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, tout est fin prêt pour la rentrée scolaire à Kidal. Dans un communiqué, la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, est d'accord pour le lancement officiel par les représentants de l'État de l'ouverture des classes le 15 octobre 2016 dans la région de Kidal. Les mêmes communiqués indiquent que la cérémonie de lancement à laquelle sont invités tous les partenaires de l'école confirme une volonté de la CMA de faciliter le retour de l'administration conformément à l'accord issu du processus d'Alger. Cette volonté est également une réponse positive à l'appel lancé par la médiation internationale et les garants de l'accord lors de la réunion interministérielle tenue à New York en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour conforter cette dynamique, en vue de la mise en œuvre de l'accord, la CMA a déjà fourni les listes de ses représentants au sein des autorités intérimaires du Comité national de la réforme du secteur de sécurité ainsi que des patrouilles mixtes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'armée a publié hier un nouveau bilan sur l'attaque de mercredi à Ntaghom, dans le nord du pays. 3 militaires et 2 civils tués et 1 militaire porté disparu. Les détails, Arzumba Compaoré.
La veille, l'armée avait parlé de 3 militaires et de 2 assaillants tués. Mais hier, une source militaire a précisé que 2 civils, un conseiller municipal d'Entagom et son fils, sont des victimes collatérales et qu'un soldat est porté disparu. Selon le communiqué de l'armée burkinabé publié mercredi, des individus non identifiés et lourdement armés ont attaqué le poste avancé d'Entagom, proche de la frontière malienne. Les assaillants ont récupéré des armes et un véhicule pick-up de l'armée avant de s'enfuir. Le même poste de police avait fait l'objet le 1er juin d'une attaque dans laquelle 3 policiers ont été tués. Début septembre, 2 personnes, dont un douanier, ont été abattues à Markoy. Tout comme en avril 2015, un agent de sécurité roumain a été kidnappé à Tambao. Puis en janvier 2016, un couple de médecins australiens a été enlevé à Djibo, toujours dans la même région. Pour rappel, le 15 janvier 2016, un commando de 3 assaillants a tué 30 personnes et fait 71 blessés en plein centre de Ouagadougou, la capitale.
En République centrafricaine, 30 morts et 57 blessés, tel est le bilan provisoire des violences qui ont eu lieu mercredi à Kagabandoro, dans le centre du pays, avec des éléments de l'ex-coalition Seleka. De nombreuses maisons ont également été brûlées, ainsi que le site des déplacés. Recueilli par Félix Yepassis Zembrou, le témoignage d'un habitant de la ville, Guy Yabada.
Actuellement, à Kagabandoro, c'est toujours très grave. C'est pas encore calmé parce que là, actuellement, il y a encore des bilans des morts des gens qui sont en train de dévouler au fur et à mesure. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont mortes. Ils ont jeté le corps dans les trous, soit dans l'eau, parce qu'il y a eu une inondation totale ici. Il y a certaines personnes qui ont cherché à traverser pour aller se protéger. Il y avait des inondations. Ils sont plongés aussi dans l'eau. Et donc, du coup, actuellement, là, le bilan, là, vraiment, c'est très grave. Dans le bilan provisoire, maintenant, là, il y avait 30 morts, et y compris 50 de blessés. Mais on n'a pas encore totalisé la suite. On voit qu'il n'y a pas de sécurité, parce que dans le quartier, c'est le CEREC qui est en train de contrôler. Et la MINUSCA qui sont ici, ils sont en train de patrouiller dans les rues. Et donc, là où ils ont fait leur check point, et donc, c'est là où ils sont. Mais dans les quartiers, il y a beaucoup de l'insécurité totale. Et donc, s'il fait jour, c'est seulement les femmes qui sont parties à la maison pour aller chercher soit les marmites, là où ils n'ont pas encore brûlé, là. C'est là où les femmes sont parties pour aller chercher les marmites et autres. Donc, les CEREC les poursuivaient toujours dans la maison pour chercher à les violer.
Greenpeace salue l'annulation en République démocratique du Congo de 3 licences d'exploitation forestière délivrées illégalement en 2015, mais exhorte les autorités congolaises à punir les coupables. Eddy Sango.
Greenpeace souligne que ces contrats ont été signés en violation d'un contrat sur l'exploitation forestière industrielle datant de 2002. Pour l'ONG, Kinshasa aurait dû envoyer un signal clair pour que les auteurs de ces actes soient punis. En juillet, l'organisation écologiste avait accusé l'ex-ministre de l'Environnement, Bienvenu Liyota Njoli, d'avoir attribué 3 concessions forestières à 2 sociétés chinoises en 2015. Greenpeace avait également reproché au ministre de l'Environnement, Robert Bopolo, d'avoir signé des ordres d'émission dans des concessions illégalement attribuées. M. Bopolo avait alors promis d'annuler ses permis et ses choses faites depuis le mois dernier. Les ONG de défense de l'environnement s'inquiètent de l'accélération de la déforestation en République démocratique du Congo. Le pays abrite à plus de 60% des forêts du bassin du Congo, deuxième massif forestier de la planète après l'Amazonie.
Le journaliste burundais éloge Willy Kaneza, lauréat 2016 du prix Peter Mackler pour le courage et l'éthique journalistique, a reçu son prix hier ici à Washington. Kaneza représente un collectif de reporters pour la plupart anonymes au Burundi, pays plongé dans une crise politique et en proie aux violences et où la liberté de la presse est menacée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie en Syrie, alliée du régime de Damas, se dit prête à assurer aux rebelles un retrait en toute sécurité d'Alep, une ville qu'elle bombarde sans relâche pour vaincre les insurgés. À noter que des pourparlers sur la Syrie sont prévus demain samedi entre Russes, Américains et représentants des pays de la région.
Présidentielle américaine 2016, Michelle Obama a reproché hier à Donald Trump ses propos intolérables sur les femmes. Pour sa part, le candidat républicain, qui est accusé d'agression sexuelle, se dit victime de mensonges éhontés de la part de médias roulants, selon lui, pour sa rivale démocrate. Il ne s'agissait pas de discussion de vestiaire, il s'agissait d'un homme puissant, s'exprimant librement et ouvertement sur un comportement de prédateur sexuel, a jugé Madame Obama.
La première dame faisait allusion aux propos vulgaires et dégradants sur les femmes que M. Trump a proférés en 2005. La situation a empiré depuis mercredi avec une série de témoignages d'une demi-douzaine de femmes qui disent avoir été victimes de sa part de harcèlement et d'agression sexuelle. Je n'ai jamais rencontré ces personnes, je ne sais même pas qui elles sont. Ce sont des histoires inventées de toutes pièces avant l'élection, a déclaré M. Trump.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
La production de phosphate a repris à Medlaoui en Tunisie après un nouveau blocage dû à un mouvement social provoqué par des diplômés chômeurs qui revendiquaient des emplois. En 5 ans, la production de phosphate a chuté de 60%, une baisse coûtant à la Tunisie environ 2 milliards d'euros. Le Fonds monétaire international FMI et la Côte d'Ivoire sont parvenus à un accord préalable en vue d'un programme économique de 674 millions de dollars sur 3 ans. Cet accord devra encore être soumis à l'examen du conseil d'administration du FMI en décembre prochain. Mais d'après le magazine Jeune Afrique, le programme soutiendra les principaux objectifs du PND, le Plan national de développement de la Côte d'Ivoire, pour la période 2016-2020 et dans lequel l'État ivoirien entend investir plus de 29 000 milliards de francs CFA au cours des 5 prochaines années. En Mauritanie, le gouvernement et Kosmos Énergie Mauritanie ont signé un contrat d'exploration-production de pétrole en offshore, a annoncé dans un communiqué le ministère mauritanien du pétrole. Le pays, qui a rejoint le club de producteurs de pétrole en 2006, a vu sa production se stabiliser à 8 000 barils par jour, réalisant des entrées en devises de près de 12 millions de dollars pour l'État mauritanien en 2015.
Place maintenant au sport, c'est avec Idrissa Seydoudia. La FIFA enquête sur la célébration du but de Serge Aurier.
Une enquête préliminaire de la FIFA a été lancée sur le geste mimant un égorgement effectué par le défenseur du PSG lors du match Côte d'Ivoire-Mali 3-1 samedi en qualification au Mondial 2018, a-t-on appris hier auprès de l'instance mondiale du football. Le geste du joueur parisien avait agité les réseaux sociaux, suscitant sarcasme ou messages de défiance à l'égard des médias. Lors de ce même match de samedi dernier, Aurier avait aussi eu un geste secourable. Il avait évité à un joueur d'avaler sa langue après un choc dans un duel.
En Angleterre, Chelsea et Nike s'engagent pour 15 ans et près d'un milliard d'euros.
Chelsea et l'équipementier américain Nike ont annoncé avoir signé un contrat record de 15 ans d'une valeur de près d'un milliard d'euros. Selon la presse britannique, le partenariat débutera la saison prochaine et sera valable jusqu'à 2032. Les Blues restent équipés par Adidas jusqu'à la fin de la saison. Selon plusieurs médias anglais, Chelsea touchera 66 millions d'euros par saison. Le partenariat le plus lucratif reste celui de Manchester United, entré en vigueur la saison passée, mais signé en juillet 2014. Il rapporte jusqu'à 2026 un minimum de 83 millions d'euros par saison aux Red Devils.
Tennis, pour terminer, Djokovic en quart de finale à Shanghai.
Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai en dominant le Canadien Vasek Pospisil, 131e joueur mondial, 6-4, 6-4. Djokovic, qui vise un 4e trophée en Chine où il est tenant du titre, affrontera au prochain tour l'Allemand Misha Zverev, 110e, qui a créé une nouvelle surprise en écartant un peu plus tôt l'Espagnol Marcel Granollers, 43e en 3 manches, 6-7, 6-4, 6-1.
Page de sport signée Idrissa Seydoudia.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dialogue politique en République démocratique du Congo. Alors qu'on annonce un accord imminent entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition, une mission de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, vient d'achever une mission de 3 jours à Kinshasa. Reportage de Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Reçu en premier, les délégués du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement ont rappelé au ministre des Affaires étrangères de la SADC les préalables de la plateforme qui dirige l'opposant Étienne Tshisekedi pour sa participation à un dialogue véritablement inclusif. La délégation du Rassemblement a été conduite par François Mamba.
L'opinion se rappelle que lorsque nous avons arrêté nos positions, nous avons indiqué que nous voulions un dialogue véritable qui mettrait en scène la logique qui se développe actuellement à l'Union africaine avec nous autres, de manière à pouvoir arriver à un entendement commun qui permette donc de respecter la constitution dans notre pays et d'aller dans l'apaisement vers donc des élections que tout le monde attend.
De son côté, l'opposition qui participe aux discussions de la Cité de l'Union africaine a invité tous ceux qui hésitent encore à rejoindre la table des négociations. Cette frange de l'opposition estime que les résolutions qui doivent sortir du dialogue seront pour le bien de tous. Vital Kamere est co-modérateur du dialogue.
Nous tous, nous voulons dialoguer. Nous tous, nous voulons donner au peuple congolais l'accord qui puisse permettre d'organiser les élections et la première alternance démocratique dans notre pays. La différence, c'est que nous nous disons, vous pouvez venir avec nous. Je voudrais aussi qu'ils disent, nous pouvons aller ensemble. Et ensemble, dans l'amour, dans la tolérance mutuelle, nous serons très forts. Nous allons discuter avec nos frères de la majorité. C'est l'adversité, ce n'est pas l'animosité.
La majorité présidentielle, qui a aussi échangé avec la mission de la SADC, a précisé que l'accord qui doit sortir du dialogue prévoit une large ouverture de façon à permettre à tous les acteurs politiques congolais à s'inscrire dans le chemin du dialogue. Obem Minako est secrétaire général de la majorité présidentielle.
Nous avons d'abord rassuré la délégation de la SADC, cette communauté qui a toujours soutenu la République démocratique du Congo en des moments difficiles, en nous respectant. Nous les avons rassurés du fait que le dialogue va prendre fin cette semaine parce que nous, de la majorité, nous avons fait des concessions majeures afin que le dialogue puisse se poursuivre et atterrir.
La mission de la SADC a eu aussi des échanges avec une délégation de la société civile. Les forces vives ont souligné notamment la nécessité d'un dialogue véritablement inclusif pour sortir la RDC de la crise politique actuelle. Au terme des consultations, les ministres de la SADC se sont dit confiants quant à l'aboutissement heureux du dialogue dont la signature de l'accord final pourrait intervenir ce week-end. Georges Chikoti est ministre angolais des Affaires étrangères.
Nous avons entendu l'essentiel de la classe politique congolaise. Nous avons écouté les gouvernements. Nous avons écouté les médiateurs, y compris les ambassadeurs de la SADC qui sont à RDC. Et sur cette base, nous avons aussi entendu et compris que le dialogue qui s'est déjà déroulé peut porter des fruits s'il arrive à sa conclusion.
Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, une première application de comparaison des prix a été lancée à Kinshasa. Elle a été conçue entre autres pour faciliter l'utilisation de la monnaie numérique appelée Falanga en RDC. Eddie Sango a joint à Kinshasa le jeune entrepreneur et initiateur de cette plateforme numérique, Toto Madradou.
Le meilleur.cd est une application qui permet aux consommateurs de comparer et d'obtenir le meilleur prix de leurs besoins par rapport à leur portefeuille. Et nous avons un catalogue jusque-là sur les hôtels, les offres de banque, les télécoms, l'abonnement TV et la location de véhicules. C'est une solution qui a consisté pour nous à mettre en ligne les prix des offres dans le but de permettre d'optimiser ou d'améliorer les rapports entre le client et l'acheteur ici sur la place de Kinshasa.
Une application numérique doit répondre à un besoin. Est-ce que la vôtre répond à un réel besoin à Kinshasa, une ville africaine?
Parler du marché déjà jusque-là, c'est un peu trop dire, mais ce qu'il y a, il y a une demande latente qui va peut-être nous demander d'entretenir cette demande et de susciter cette demande. Mais du moins, il y a une demande parce que le digital impose de nouveaux usages, transforme notre comportement d'achat et nos habitudes de consommation. Et Kinshasa également s'inscrit dans cette dynamique du changement. changement de la société par le digital. Donc la population consomme aujourd'hui l'abonnement TV, il y a une demande en ces termes, dans ces sens-là. L'internet mobile surtout, nous avons la particularité de comparer les mFalanga, donc le mobile money, ce qui n'est pas encore même ailleurs.
Il me semble que vous soyez les pionniers dans les secteurs, dans cette partie du continent.
On peut dire ça, hein. Jusque-là, il n'y a pas de comparateur de prix. Je crois avoir lu dans Forbes qu'il y avait un comparateur de prix, mais c'est spécialisé sur le voyage au Gabon ou au Cameroun. Mais au Congo d'abord et en Afrique centrale, nous sommes les seuls.
Qui visez-vous dans votre secteur? Quelle est votre cible?
C'est le public urbain qui est dans des grandes villes, qui est connecté surtout sur Internet, qui a un budget de consommation. Nous visons le consommateur, on va dire. Donc, et par rapport à l'évolution de la société, ce public a la particularité d'être sensible au prix.
En Afrique, l'Internet et les numériques sont l'objet des humeurs politiques, avec des coupures quand c'est la plaie aux gouvernants. Ne craignez-vous pas d'en faire les frais?
C'est un outil de prescription. Je ne vois pas comment est-ce que ça va être interdit d'utiliser les meilleurs procédés, même si on interdisait les meilleurs procédés. Nous, les propriétaires, les fondateurs, nous sommes ici sur Kinshasa, mais c'est hébergé à l'étranger. Ça s'impose dans la société.
Est-ce que vous avez des investisseurs?
On n'a pas encore un financement jusque-là. En termes de start-up, on parle de Love Money. Donc c'est vraiment en fonds propres que nous avons pu faire ces lives.
Toto Madradou, propriétaire de l'application et du site internet lemeilleur.com.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Poursuite à Lomé au Togo du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. Il a été question ces deux derniers jours de pêche illicite, d'économie bleue et de piraterie maritime. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
De 2005 à 2016, plus de 205 attaques pirates ont été enregistrées dans le golfe de Guinée, engendrant un manque à gagner estimé à 2 milliards de dollars par an. L'Organisation maritime internationale indique que la situation dans cette partie de l'océan Atlantique est plus complexe car il y a beaucoup d'incidents. Les statistiques alarmantes concernant les attaques pirates au large des côtes africaines ne reflètent pas la réalité, soutiennent les experts réunis à Lomé. Le capitaine de frégate camerounais, Cyril Atofank, expert en sécurité maritime.
Arrêtez de croire aux statistiques, elles ne sont pas bonnes. Une pirogue qui se balade à côté d'un navire, le navire va tout de suite sonner l'alerte, dire qu'il est attaqué alors qu'en vérité, il ne l'est pas. Le monde maritime est une des communautés les mieux organisées en termes d'assurance. Une fois que c'est établi que le golfe de Guinée, par exemple, est une zone qui n'est pas sécurisée, la prime d'assurance pour les navires qui vont dans le golfe de Guinée va grimper en flèche. Ça va se répercuter sur le coût du transport du conteneur ou de la marchandise en vrac et in fine dans l'assiette du consommateur qui va payer plus cher la marchandise importée. Et donc il est question de démontrer, de discuter, de travailler pour que le golfe de Guinée ne soit plus décrié, pour qu'on ne juge plus que nos zones ne sont pas sûres et donc que ce coût des assurances baisse et que du coup le coût des transports maritimes baisse et qu'au final le consommateur paye le juste prix.
La pêche illicite fait partie des leviers qui retardent l'envol de l'économie bleue sur le continent noir, regrette Séraphin Dédi, secrétaire général du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée.
La pêche est un facteur de bonne redistribution des ressources dans la communauté. Donc c'est une source potentielle de lutte contre la pauvreté. Et il est avéré que s'il y a une pêche illicite importante, c'est qu'il y a un marché et il y a un revenu sur une valeur ajoutée pour celui qui fait la pêche illicite. Donc cela montre tout l'intérêt que le secteur est un secteur très stratégique et qu'il faut forcément que nos États se mobilisent à préserver cette ressource pour contribuer à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et à contribuer de façon globale à l'économie de nos pays.
Le Togo tire 20% de ses recettes du port autonome de Lomé. Ayant pris conscience de la place de l'économie bleue dans son développement, le pays s'est doté d'un plan stratégique spécifique dont nous parle Hubert Bakay, chef de cabinet au Haut Conseil pour la mer du Togo.
Il s'agira de faire en sorte que tout ce qui peut être développé à partir des ressources marines puisse avoir une répercussion sur les populations, aussi bien togolaises que dans les pays de l'Interland. Il y a aussi cet aspect de la formation au métier maritime. Il y a une école maritime qui a ouvert cette année.
Les pays africains s'apprêtent à adopter une charte sur la sécurité maritime dont le contenu tiendra sûrement compte des recommandations des experts sur la nécessité de mutualiser les énergies pour venir à bout de la piraterie maritime et booster l'économie bleue en Afrique. Kay Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé. sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing.
Le prix Nobel de littérature accordé à Bob Dylan, le célèbre chanteur américain, Idriss Fall a recueilli la réaction d'El Hadji Hamidou Kassé, ministre sénégalais, écrivain et fanatique de Dylan depuis plusieurs années.
Je rappelle simplement que j'ai grandi musicalement parlant avec Bob Dylan. J'ai dévoré pratiquement tout ce que Dylan a produit musicalement parlant. J'ai lu beaucoup de bouquins sur Bob Dylan. J'ai également acheté un nombre infini de revues, de magazines, de journaux sur Bob Dylan. Il y a eu un moment, notamment quand j'étais jeune étudiant à l'Université de Dakar, je collectionnais tout ce qui concernait Bob Dylan, photos, posters, livres, magazines, journaux, disques, cassettes. J'étais véritablement dans ce qu'on peut appeler l'espace dylanien. On lui a fait porter le chapeau d'une jeunesse révoltée et tourmentée des États-Unis et du monde de façon générale.
Ta chanson Hurricane pour défendre un boxeur noir accusé à tort.
Exactement. Les gens parlaient également beaucoup de Blind Wind. Les gens parlent également de Chimes of Freedom. Il y a beaucoup de chansons, même dans l'époque où Bob Dylan a versé un peu dans un lyrisme prophétique, dans un mysticisme, il y avait toujours cette touche humaniste, celle qui justement touchait à la condition de l'homme dans le monde contemporain.
Mais de là à donner le Nobel de littérature à un chanteur quand même, n'est-ce pas poussé un peu trop loin?
Mais Bob Dylan, c'était pas seulement un chanteur. Bob Dylan, c'est un immense poète, une poésie puissante de la liberté. On pourrait même dire que la poésie de Bob Dylan, elle est métaphysique, au sens où elle interroge les fins ultimes de l'existence. On peut également entrer chez Bob Dylan par la porte des chroniques. Les chroniques de Bob Dylan relatent sa vie, ses débuts dans la musique. On peut voir ce qui se passait dans cette Amérique des années 60, dans le monde des années 80, 90 et même 2000, parce que l'artiste continue toujours à produire, mais continue également à ce qu'il appelle tournée permanente, n'est-ce pas, à travers les pays où il expose en concert ses productions les plus récentes, etc. Et de ce point de vue, on peut parfaitement donner le Nobel de littérature à Bob Dylan pour la bonne et simple raison que c'est un immense poète qui a écrit des centaines et des centaines de poésies, mais également des centaines et des centaines de pages.
El Hadji Hamidou Kassé, ministre sénégalais, écrivain et fanatique de Dylan. Voilà, Bob Dylan, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction technique Zuber El Tayeb, Jean-Roger Billon, Washington. Bonne journée à tous à l'écoute de VOA Afrique.